De retour dans les studios de Canal Sud en compagnie de Ahmed Halim. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la semaine dernière, nous recevions un communiqué émanant du collectif de soutien avec le peuple kurde.
Oui.
Et un communiqué qui nous invitait à une conférence de presse la semaine dernière, mais les forces en puissance de Canal Sud ne pouvaient pas s'y rendre. On ne pouvait pas s'y rendre, alors du coup, on vous a invité dans le studio pour parler de la question kurde. Alors, on va peut-être commencer par présenter un petit peu l'histoire du peuple kurde pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément.
Merci pour votre invitation. Le peuple kurde, c'est un peuple qui se trouve au Moyen-Orient, et d'origine indo-européenne, un peuple plus de 50 millions d'âmes, qui est réparti entre quatre États, et la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et comme j'ai dit, la langue kurde, c'est une langue indo-européenne de branche iranienne. Et l'ancienne religion kurde, c'est des zoroastriennes. Mais aujourd'hui, la majorité des Kurdes sont musulmans.
Musulmans sunnites.
Et musulmans sunnites, la majorité. D'accord. Mais il y a aussi des chiites, des alévites, des yézidis et aussi une portion des chrétiennes. Il y avait une communauté juive qui était transféré en Israël après l'échec de Mollah Mustafa Barzani en Irak en 1975 par un pont aérien qui est le plus grand dans le monde. Voilà, les Kurdes, c'est un peuple sans État, et le peuple le plus important sans État dans le monde.
C'est ça qui est important de préciser, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de structure étatique, en tout cas, qui est reconnue.
Il y a en Irak les Kurdes d'Irak, quelque chose.
Oui, et depuis la chute de Saddam Hussein, au Kurdistan irakien, il y a eu un État fédéral, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'État irakien, ce n'est pas un État-nation unique, c'est un État fédéral. Et donc, les Kurdes jouissent, une autonomie, mais ce n'est pas reconnu comme un État à part entière. Mmh. Et on trouve aussi, depuis les événements en Syrie, au Kurdistan syrien, dit Rojava, et il y a aussi une autonomie qui jouissent les Kurdes depuis 2012.
Voilà, c'est ça. Donc c'est parce que ces temps-ci, beaucoup de choses bougent aussi au niveau du Kurdistan, notamment liées à la Syrie, mais aussi, j'imagine, à d'autres changements géopolitiques, quoi. On peut peut-être y venir, justement, avec le conflit syrien, par exemple.
Oui. Comme vous dites...
C'est compliqué, donc il faut prendre par un bout, quoi.
Comme vous dites, le Kurdistan, comme j'ai dit, le Kurdistan fait un trait d'union entre l'Orient et l'Occident depuis de l'Antiquité, et qui dispose des ressources naturelles très riches en pétrole, en eau, qui est convoitisé par plusieurs États et des forces internationales aussi, et qui fait que le Kurdistan il a une ingérence étrangère à la fois des États locaux et des forces internationales, des forces impérialistes. Pour cela, la question kurde, il y a tout le temps un terrain très instable qui bouge. Mais en tout cas, le plus grand parti kurde se trouve en Turquie. C'est pratiquement la moitié en termes de population, en termes de superficie. Les événements les plus intéressants se passent à ce moment-là au Kurdistan syrien. C'est la plus petite partie du Kurdistan. Mm-hmm. Et depuis le soulèvement en Syrie depuis 2011... les Kurdes ont commencé à s'organiser et d'ores et déjà, il y avait des partis kurdes qui s'organisaient dans la région kurde. Et justement, le 19 juillet 2012, les Kurdes ont rompu avec le régime Assad. Ils ont créé une autonomie dans la région de Kurdistan syrienne.
Rojava, c'est ça.
Rojava, qui par la suite... divisé en trois cantons, c'est-à-dire le canton à l'est Djezire, au milieu Kobané et à l'ouest Afrin. Et donc, ces trois cantons se sont organisés sous une autogestion qui a créé une région stable malgré le conflit. Et donc, les gens qui étaient chassés par à la fois par le pouvoir et par les islamistes à Messirine-Libre ont trouvé leur refuge au Kursan et Sirene, à Rojava. Et donc, aujourd'hui, on estime autour de 500 000 réfugiés syriennes, c'est-à-dire à la fois chrétiennes, arabes ou chiites ou tchétchènes ou turkmènes, se trouvent au Kurdistan et syriennes à Rojava, qui jouissent leurs croyances et ils n'ont pas de, comment dire, oppression vis-à-vis de l'extérieur.
D'accord. Eh bien, peut-être ça peut nous amener à parler, puisque... Revenons peut-être aussi, puisque le communiqué que vous nous aviez fait parvenir la semaine dernière parlait notamment du... Enfin, c'était en corrélation avec le 16e anniversaire du rapt de Abdullah Öcalan.
Oui, Abdullah Öcalan, c'est le leader du parti kurde de Turquie, c'est dit le parti travailleur de Kurdistan, le PKK. Et il a été capturé au Kenya le 15 février 1999 et ramené en Turquie, depuis isolé sur l'île Imrali.
Et c'est une île prison.
Et c'est une île prison unique pour Abdullah Öcalan.
Voilà, il est tout seul dans la prison en fait.
Et il était tout seul jusqu'à 2013. D'accord. Et à partir de 2013, ils ont mis quelques prisonniers kurdes ou turcs pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Mais il est resté pendant 14 ans tout seul dans cette prison et dans l'isolement total.
Donc c'est le leader du PKK.
Oui, leader de PKK aussi, et leader subrutiel de Rojava, des Kurdistan syriennes.
Alors, je voulais justement venir à parler du PKK pour préciser que c'est une organisation qui est considérée comme terroriste par les États, notamment européens, américains, tous les États occidentaux, en fait, impérialistes.
Oui, et parce que les intérêts d'État en État qui priment. Et en effet, la Turquie a voulu tout faire pour déclarer le PKK comme un mouvement terroriste, qu'ils ont réussi. Mais les derniers événements ont montré que le PKK ne peut pas être un mouvement terroriste parce que lorsque le Daesh a attaqué à Mossoul, par la suite à Shingal et Kobané, et les guerriers de PKK, PYD, YPG, YPJ ont commencé à combattre contre le Daesh. Vous vous souvenez que Mossoul, c'est une ville de plus de 2 millions d'habitants qui est tombée dans le Daesh dans quelques heures sans résistance. Et tandis que lorsque le Daesh a attaqué à Kobané, c'est une ville de 200 000 habitants, et le 15 septembre, il voulait faire la prière de Grandit à Kobané. Et c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs de prendre Kobané. Mais à Kobané, il y avait une déséquilibre importante. Daesh possède des armes très lourdes qu'ils ont prises de Mossoul ou de Syrie, des dernières technologies, tandis que les combattants de PYD et YPJ et YPJ,
donc les Kurdes,
Kurdes étaient des armes légères. Mm-hmm. Et malgré cela, les forces kurdes ont résisté contre Daesh. Et cette résistance a relayé par les Kurdes dans le monde entier et que la communauté internationale a dû bouger et pour aider à la résistance de Kobané. Mmh. Et la résistance de Kobané, et c'est aussi une émanation de PKK et PYD. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, le plus important danger terroriste dans le monde, c'est le Daesh, et c'est uniquement les Kurdes, notamment le PKK, arrivent à faire face à cet mouvement terroriste.
Mais il y a eu aussi intervention des alliés qui ont effectué des bombardements.
Et justement, ce que je disais, jusqu'à mi-octobre, il n'y a eu rien.
Oui.
Même Obama a déclaré que Kobané n'est pas important et Kobané peut être pris par Daesh. Mm. Mais comme la résistance n'a pas permis que le Daesh prenne Kobané, et donc, il y a eu un mouvement en faveur de la résistance et donc les forces impérialistes ont dû intervenir.
Et ainsi, on a parlé de Kobané comme de Stalingrad. On l'a comparé à Stalingrad. Alors, d'où ma question, c'est que le PKK, c'est un parti qui, à la fois, se réclame, enfin, lutte pour le droit à l'autodétermination, le droit à un État pour les Kurdes, mais il se réclame aussi du marxisme. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodine dans la région.
Oui, et aujourd'hui, ce qui se passe à Kobané et à Rojava, c'est l'autogestion. Et c'est un exemple que les forces, les États de la région ne veulent pas que ça soit appliqué parce que l'autogestion est basée sur l'égalité homme-femme, la laïcité, la progrès du Maine. Et pour cela, le PKK, c'est un danger pour ses forces. Mais en tout cas, pour moi, depuis le Vietnam, la première fois dans le monde, la gauche a commencé à faire, a commencé à marquer. Et premièrement à Kobané, par la suite en Grèce, par Syriza.
Et en Amérique latine.
Et en Amérique latine, mais et c'est-à-dire, il commence un vent qui souffle de la gauche.
Oui.
Et donc ça c'est important.
Et dans le monde arabe, c'est quelque chose d'aussi très important pour l'avenir d'un monde arabe dévoré par l'intégrisme et la réaction arabe.
Oui, exactement. C'est dans le monde arabe, c'est, l'exemple de Rojava a commencé à être pris comme exemple et examiné. Et aujourd'hui, on voit un chaos par exemple en Libye.
Oui.
Et en Libye, il y a des forces locales, mais ils n'arrivent pas à organiser au niveau central une organisation qui tienne la route. Et tandis qu'à Rojava, et c'est partout il y a des assemblées populaires, type soviétique, et qui la décision prise de base. Et surtout, ce qui est important, et dans ces assemblées, les hommes et les femmes sont paritaires. Il y a toujours des binômes dans les
responsabilités. Quand vous dites soviétique, juste pour préciser, c'est-à-dire vous parlez de la forme d'organisation de conseil, des conseils, c'est-à-dire...
Conseil populaire.
Populaire, voilà.
Ouais, exactement, conseil populaire et qui renvoie ses délégués et qui crée une assemblée au niveau de la région. Et la charte Rojava aujourd'hui, ce n'est pas une constitution, c'est une charte sans quatre articles.
Elle se trouve sur Internet, on peut la lire sur différents sites.
Oui, vous pouvez trouver.
Charte de Rojava.
La charte Rojava est en anglais, en français, je n'ai pas trouvé.
D'accord.
Et ben, ce qui est important, l'égalité homme-femme, la représentation homme-femme. Et une économie basée sur les coopératives, l'autogestion, et les richesses n'appartiennent pas à une personne, c'est-à-dire toutes les richesses appartiennent au peuple, et surtout aussi la laïcité est importante, toutes les croyances, toutes les fois sont admises et la pratique est assurée. Et pour cela que et ça peut être un exemple important pour le peuple de la région. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Kurdes ne proposent pas une État-nation pour les Kurdes même. Ils proposent plutôt un État confédéral d'où tous les peuples trouvent leur autonomie et une autogestion, une reconnaissance nationale pour tout le monde.
Comment pouvez-vous expliquer l'émergence rapide de Daesh, puisque les Kurdes ont dû l'affronter vraiment pratiquement à main nue à un certain moment?
Et je trouve que d'une part, l'intervention en Irak et en Syrie, l'ingérence, a détruit le statut établi par l'accord SAIC et PICO. Mm-hmm. Et pendant longtemps, dans ces États, en Irak et en Syrie, il y avait des dictatures qui tenaient en main fer et qui opprimaient les communautés. Dès que c'est libéré, donc ça crée une rivalité, une contradiction entre les gens qui étaient aux côtés du pouvoir, les gens qui étaient opprimés. Et surtout, en Irak, les sunnites qui étaient au pouvoir étaient privés de pouvoir. Et la force principale de l'Irak, des officiers étaient des bassistes et des sunnites. Donc, lorsque c'était, comment dire, ils étaient dans l'illégalité, qu'ils ont trouvé une alliance dans le Daesh. Et pour retrouver le pouvoir, ils se sont alliés, c'est-à-dire il y a une alliance entre les ex-officiers bassistes et sunnites et le Daesh. Et donc ça crée une symbiose et qui est, à mon avis aussi, c'était laissé faire ou soutenu par certains services occidentaux, qui a permis et armé le Daesh, et d'où on a la preuve. Aujourd'hui, les armements Daesh, 30% américains, 30% russes, 30% chinois, 5% iraniens, 5% turcs. C'est-à-dire, si l'armement répartit ainsi, et la munition répartit ainsi, c'est-à-dire il y a un approvisionnement permanent pour munitions au Daesh. Donc, il y a un soutien de ces pays, et d'une part, d'autre part, et il y a l'éclatement de ces États qui étaient des dictatures, n'étaient pas des démocraties, a créé tous ces conflits.
Est-ce qu'on pourrait revenir aussi sur une contradiction qui est très importante de la part de l'Europe notamment, qui, comme on l'a dit, condamne le PKK d'un côté en disant que c'est une organisation terroriste et qui maintient encore des prisonniers politiques sur des îles ou autres, et d'un autre côté, se retrouver du même côté contre Daesh, et donc du coup, c'est une hypocrisie totale, quoi.
Exactement. Et il y a 15 jours, le coprésident de PYT, c'est-à-dire le parti qui dirige la résistance à Kobané, Assi Abdullah, et l'une des commandantes des forces kurdes, Neslihan Abdullah, a été reçue par Hollande à l'Élysée. C'est-à-dire, d'une part, on a un interlocuteur qui est émanation du PKK. L'autre côté, le PKK, c'est un mouvement terroriste. Ça ne tient pas la route.
Ça ne tient pas debout du tout.
Et donc, il faut qu'il y ait une dynamique que l'Europe retire le PKK dans des mouvements terroristes, parce qu'aujourd'hui, la seule force qui arrive tiennent la tête contre Daesh, c'est ses forces. Et ils ont arrêté à Kobané, pour Kobané libéré. Aujourd'hui, le village Kobané se libère. À Shengal aussi, ils ont poussé Daesh, oui. À Kirkuk aussi, ils poussent. Donc, aujourd'hui, on voit que le PKK et PYD, ils n'ont pas des actes terroristes, mais plutôt de défense d'un peuple, et défense d'un territoire, d'une culture, et porteur d'un projet. Ce projet, c'est plutôt
un projet global
pour l'humanité et pour l'avenir de la région, pour pacifier la région, on a besoin que les peuples vivent côte à côte. Parce que dans ces régions, pendant des siècles, les peuples ont vécu côte à côte. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Et ces problèmes, on peut dépasser. On a l'exemple à Rojava. On peut étendre ce projet et créer une zone de la paix et de prospérité. Eh bien, il faut que le Pékin soit retiré des mouvements terroristes. Et aussi, il faut que Abdelhadjian soit libéré pour qu'il mène certainement dans des conditions convenables des discussions avec l'État turc.
Et dans ces conditions, quelle est l'articulation actuellement entre, disons, les forces kurdes qui se réclament du PKK et ce qu'on peut appeler comme État régional kurde en Irak?
De fait, sur le terrain, le Peshmerga et la guérilla, c'est-à-dire dans le terrain, il y a une entente, mais au niveau de
la vision d'avenir,
de l'avenir, côté l'Irak, c'est plutôt je qualifie des bourgeois. Qui veulent la richesse du Kurdistan pour leurs intérêts. Et d'autre côté, le côté PKK-PYD, plutôt pour le partage des richesses pour le peuple. Et pour cela, il y a une contradiction, il y a des conflits. Mais ce conflit, aujourd'hui, ce n'est pas armé. Et les Kurdes essayent de trouver un compromis en organisant une conférence nationale qui peut être au début d'une négociation.
Bien, et ben, on va pas avoir le temps d'en parler pendant plus que ça, mais en tout cas, on peut parler de l'actualité du collectif de solidarité, notamment le 28 février prochain.
Et le 28 février prochain, le collectif organise 6 heures pour le Kurdistan à Olvit et parc des expositions à partir de 17h jusqu'à 23h. Et il y aura des conférences sur l'histoire, la culture et la charte Rojava. Mmh. Et aussi, il y aura une table ronde avec des intervenants locaux et nationaux, c'est-à-dire des syndicalistes et des associations, des partis politiques. Et au niveau national, il y aura Martin Biard, le sénateur de parti de gauche,
et
Khaled Issa de PYD, et aussi il y aura Olivier Besancenot, il y aura Gérard Bapt, le député, et il y aura aussi d'un représentant du Parti communiste français. Et voilà, ben, il y aura 6 heures pour parler du Kurdistan et pour mieux informer l'opinion publique. Par la suite, il y aura une délégation qui va partir au Kurdistan. Et le 21 mars, il y a le nouvel an kurde. Environ une dizaine de personnes partent de Toulouse pour participer au Newroz. Et bon, auparavant, la Marche mondiale des femmes fait des marches tous les ans. Cette année, la Marche mondiale des femmes, la branche européenne, commence du Kurdistan, de frontière turco-syrienne, c'est-à-dire côté de Rojava. Et donc, aussi, il y a 4 femmes toulousaines qui partent pour cette marche.
Très bien.
Merci.
Eh bien, on donnera un peu plus d'informations. Donc, pour les 6 heures pour Kobané et le Kurdistan, donc je rappelle, c'est le 28 février à partir de 17h au Parc des Expositions de Toulouse, au Hall 8. Et l'entrée est libre, j'imagine ?
Oui.
D'accord. Donc, l'entrée est libre. On le réannoncera dans les prochains magazines. Et merci beaucoup, Ahmed, d'être venu nous parler de tout ça et du collectif.
Et merci à vous.